Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, émission Quoi de neuf, comme chaque mercredi entre 16h30 et 18h. Trois séquences aujourd'hui, une demi-heure pour chaque séquence. Tout à l'heure, eh bien, nous aurons l'occasion de découvrir les prochains invités de la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq. Et à 17h30, une émission spéciale, très spéciale, même sur le torchis artistique. Mais cette première demi-heure sera consacrée à un grand moment, comme chaque année, très attendu, puisqu'il s'agit de la foire Art-Up, Art-Up 2017, présentée aujourd'hui en compagnie de notre invité, qui est le directeur donc de cette foire, qui s'appelle M. Didier Besse. Bonjour M. Besse.
Bonjour Didier Besse, oui. Très heureux d'être avec vous. Et vous remercie, je vous remercie de cette invitation.
Oui, je peux dire que on connaît à Radio Campus cette foire de l'art depuis sa création, hein, que ce soit Françoise Objoie et moi, on a eu l'occasion de suivre toutes les éditions. Donc peut-être faire un petit peu rapidement le parcours de cette foire, comment elle a, on va dire, traversé ce qu'on peut appeler des temps déjà.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai pris les commandes de la foire il y a 8 ans et demi, donc pour la 3e édition, il y avait un constat à faire et puis redonner une dynamique à cette foire. Et donc ça s'est fait qu'avec un travail de terrain. Et comme je l'avais évoqué à l'époque avec l'équipe de l'île Grand Palais, qui est producteur de l'événement, l'île Grand Palais est producteur de l'événement Art-Up. C'était indispensable de faire un travail de communication et de rencontre avec les galeries qui existaient sur place et de vraiment les interpeller pour savoir justement ce qu'ils avaient ressenti de la foire, quelles étaient leurs perceptions de tout ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire une grande et belle foire d'art contemporain si on ne la fait pas avec les gens qui sont déjà là.
Alors les gens qui sont déjà là, il y a ceux qui sont bien installés, il y a aussi des étudiants qui font partie des écoles d'art de la région, qui sont mis aussi au cœur de cette, on peut dire aussi, cette fête, hein, parfois.
Oui, alors ça c'est un des aspects. La foire progressant, on peut se permettre certaines choses, et c'est vrai que le contact avec la jeunesse et les écoles d'art est extrêmement important. Et là, depuis 2 ans, on a mis en place un projet, on fait un appel aux artistes des différentes écoles et universités de la région sous la forme d'une sorte de concours. Donc on a eu 25 dossiers, on a choisi 8 artistes qui sont présentés dans la foire. Bon, là c'est une première mise en valeur, une mise en abîme, on va dire, une rencontre avec le monde de l'art, avec les différentes facettes de ce monde de l'art, avec à la fois les collectionneurs, à la fois avec les galeries, à la fois avec les artistes. Donc c'est très intéressant pour eux, et c'est vrai que on leur a aussi demandé de se coller à la thématique qu'on a mis en place cette année sur l'architecture. Et donc ces jeunes auront un espace de 100 mètres carrés où ils vont pouvoir présenter leur production.
Alors dans quelques instants, on en réécoutera quelques-uns qui ont fait partie de ces révélations 2016. On peut aussi dire, bien sûr, que cette foire de l'art est internationale et que donc de nombreuses galeries viennent du monde entier et avec des artistes du monde entier.
Tout à fait. On est dans une progression constante de la participation des galeries étrangères. On est en fait sur un 25%. Il y a à peu près 26 galeries étrangères, ce qui est important. Une grande partie de la Belgique, et ça, nos amis belges, on compte sur eux, et c'est vrai qu'ils sont très importants dans la dynamique de cette foire. Autrement, il y a 9 pays représentés, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Bien sûr, je vais en oublier, mais... En tout cas, c'est très fort, ça. Alors, donc, une galerie aussi des Dom Tom de La Réunion, hein, c'est bien de faire remarquer ça, une galerie des USA. Et puis, après, il y a à peu près un quart de galeries qui viennent de la région parisienne et le reste de toute la France.
Voilà, donc cet événement cette année, ce sera, on va dire, vers le 3, 4 mars, 5 mars. Et donc, on aura aussi, comme chaque année, un vernissage le mercredi.
Oui, alors c'est très précisément, il y a un vernissage qui a lieu le mercredi, et puis la foire démarre donc le 2, 3, 4 et 5. Donc vous avez notamment la nuit de l'art qui a lieu le jeudi soir, oui, où là on demande aux galeries de proposer un sujet, une intervention, une performance. Et là, ça sera une soirée qui sera en nocturne en fait. Hein.
Mm-hmm. Donc vous attendez, on va dire, 100 galeries, 10 pays représentés, 430 artistes pour cette 10e édition. Et l'année dernière, il y a eu plus de 31 000 visiteurs, ce qui est assez énorme. Mmh. Et puis je vois bien aussi les relations avec le tissu de la ville, la vie de la ville. Ça fait partie maintenant de l'énergie, de la symbiose.
Oui, vous savez, de toute façon, cette foire, elle s'est construite sur quatre piliers qui sont très importants. Donc les galeries, les éditeurs, qui sont les personnes qui payent un espace, qui viennent pour faire des affaires. Les entreprises également, il y a beaucoup d'entreprises, c'est en fait the place to be maintenant, hein. C'est j'utilise le mot anglais parce que c'est rigolo, mais en fait c'est vrai que c'est devenu un événement de référence, et les entreprises de la région y organisent des cocktails, des soirées, reçoivent leurs clients. Au début, ces clients y rentraient que dans l'espace où ils étaient invités, et puis c'est tout, ils achetaient pas forcément, maintenant on les a transformés en acheteurs. En fait c'est une des fonctions principales de la foire. Également les structures artistiques et culturelles de la ville et de la région, nos fidèles amis de la maison de la photographie et de la sécu, et puis aussi les collectionneurs. Donc c'est sur ces quatre piliers que se construit la foire.
Voilà, donc un événement bien sûr attendu. On peut dire que c'est un événement populaire, puisque tout le monde y vient maintenant,
C'est toute l'ambiguïté et la fonction essentielle de la foire. C'est que c'est une foire grand public, mais en même temps professionnelle. Et notre propos, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui viennent, que les gens soient décomplexés par rapport à l'art et qu'ils viennent découvrir le monde de l'art d'aujourd'hui avec ses différentes facettes. Et c'est vrai qu'on est arrivé à ce que beaucoup de gens viennent et ces gens... petits, grands et adultes et professionnels dans différentes fonctions, ils ont été curieux, ils sont devenus amateurs, on les a transformés en acheteurs et ils se transforment aussi en collectionneurs. Et c'est la fonction essentielle de la foire. Et en fait, c'est une foire qui ne peut exister que parce qu'il y a beaucoup de petits moteurs qui se mettent en route comme ça. Et que, bon, il y a les partenaires aussi essentiels de la foire, hein, Vinci et la Banque de Crédit du Nord qui sont des partenaires essentiels. Voilà, donc il y a une vraie dynamique, et cette foire est reconnue à l'extérieur, en France, à l'international. C'est vrai que c'est la première foire d'art contemporain en région hors Paris. Donc on est arrivé à vraiment créer cette dynamique, mais c'est aussi parce que cette foire, elle est sur des valeurs essentielles de convivialité, d'amitié, d'écoute, d'échange. C'est, voilà, je pense que c'est ça le plus important. L'art est fédérateur, l'art est quelque chose qui peut nous aider à vivre mieux. Ça permet d'échanger, ça permet de se cultiver, ça permet de rencontrer les autres aussi.
Alors évidemment, on n'est pas dans un musée, il y a beaucoup plus d'animation et de bruit, on va dire.
Oui. Oui, alors c'est un aspect, c'est très pertinent de parler de ça, parce que c'est vrai que je recommande, en fait, si vous voulez, quand on rentre dans la foire, je dis toujours, j'aimerais que les gens y mettent des chaussons, hein, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leurs soucis, tout ce qui nous pollue la vie en extérieur, et d'arriver là et d'arriver un peu neutre, et puis de se laisser porter, en fait. Il faut se laisser porter par la foire, il faut aller à la rencontre à la fois des œuvres, des gens, des galeries qui sont là, qui sont très disponibles, en fait. Alors bien sûr, ils sont pris dans quelque chose de compliqué, parce qu'à la fois, ils sont là pour accueillir, défendre leurs artistes, mais ils doivent faire des affaires, oui, donc voilà, il y a toute une ambiguïté, mais en même temps, c'est ce qui donne de la force à tout ça.
Et puis surtout, il y a beaucoup à voir, pas à boire, mais à voir.
Oui. Il y a à boire aussi le champagne, mais c'est certain que, en fait, la recommandation que je ferai à tout à chacun, c'est de venir dans la foire, de revenir et de revenir. En fait, c'est pas une course contre la montre de visiter la foire. Il faut prendre son temps. On peut décider d'ailleurs de ne pas la visiter complètement, hein, parce que c'est vrai qu'on va découvrir donc 105 galeries, mais on va découvrir aussi presque 450 univers. Donc ça peut être éprouvant et il faut savoir trouver des moments de repos dans la foire, d'aller s'asseoir, d'aller peut-être boire un verre, d'aller discuter avec quelqu'un, mais il faut des temps comme ça, calmes. Et puis voilà, il y a aussi l'idée du coup de foudre, et le coup de foudre c'est pas forcément lié à... C'est lié bien sûr à l'argent, mais on peut s'offrir une petite œuvre, une litho, une estampe, une sérigraphie à 100 euros, à 300 euros, et puis on peut s'acheter une œuvre à des millions.
Moi, j'ai eu un petit coup de foudre il y a quelques années pour un artiste d'une galerie belge, et je suis allé là-bas en Belgique dans son atelier.
Ah, c'est bien ça. Ouais. Ben voilà, c'est tout ça qui se passe. En fait, on ne connaît de la foire que le dessus de l'iceberg, mais il y a tout ça qui se passe. Il y a les affaires qui vont se faire sur place, il y a les rencontres qui vont se faire sur place, il y a les affaires qui se feront dans un temps très rapide après la foire, parce que les gens ont eu le coup de foudre, mais ils n'auraient pas pu se décider parce que ça va vite. En fait, c'est un événement qu'on prépare pendant une année, mais ça dure 4 jours et demi, et en fait là, en plus, les gens, ils sont un peu en vacances, donc c'est vrai que c'est très important qu'on communique pour dire ben voilà, c'est tout bientôt, ça dure que 4 jours et demi, et pensez-y. Voilà.
Alors l'avantage aussi, c'est que souvent, les artistes sont présents dans cette foire, et enfin, moi j'ai la chance de pouvoir en interviewer, c'est un petit peu mon travail.
Ouais,
et donc
sûr.
On va pouvoir en écouter aujourd'hui des valeurs pour demain, on va dire, hein, puisque avec Révélation 2016, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs artistes. Je vous propose une petite présentation de cette sélection de l'an dernier, hein, par Lisa Richard, donc, qui était donc responsable, chargée de cette médiation avec le public.
Donc je me présente, je m'appelle Lisa Richard et je m'occupe de la médiation sur le stand de Révélation by Art Up. Donc ce qui est intéressant avec Art Up, c'est que cette année, pour Révélation, ils n'ont pas choisi de sélectionner des artistes, mais des étudiants. C'est-à-dire que le concours a été proposé à différentes écoles, dont l'ESA de Tourcoing, l'Université de Valenciennes, l'Université de Lille 3 en spécialisation art plastique, mais aussi le Frénois, voilà, qui est au-delà de tout ça. Donc, c'était articulé par le congrès dont M. Richard Skrzyzak fait partie, qui est professeur à l'ESA de Tourcoing. Donc, comme je l'ai dit, ce concours a été présenté à certaines écoles en décembre, voilà, et le choix a été fait également en décembre. Voilà.
Donc, ces artistes, ces œuvres ont été sélectionnées par un jury. Est-ce qu'il y avait un profil particulier qui était recherché ?
Alors déjà, il y a 7 jeunes, vous me posez la question, qui ont été sélectionnés pour cette saison. Et il n'y avait pas vraiment de profil recherché, c'était vraiment sur concours. Les étudiants créaient un dossier, voilà, avec ce qu'ils voulaient proposer. Et le jury a fait son choix par la suite. Donc il n'y avait pas du tout de critères de base voilà, qui auraient pu être discriminatoires. Non, voilà, c'était vraiment l'art pour l'art, voilà, à la base.
Donc ces œuvres sont rassemblées dans un même lieu. Elles ont été distinguées. Il y a eu des prix ou quelque chose comme ça ?
Voilà, il y a une sélection parmi les 7 travaux des étudiants. Et c'est M. Adrien Tecky qui a été sélectionné pour ses travaux sonores et les 5 sculptures qu'il avait fait à l'imprimante 3D. Et justement, Adrien va pouvoir profiter de cette sélection pour exposer à la Sécu pendant plusieurs mois. Voilà, il a été vraiment choisi pour ça, pour être exposé ailleurs.
Est-ce que le fait d'être exposé ici peut engager certaines galeries qui exposent par ailleurs dans l'espace de Art-Faire à avoir recours aux compétences des artistes ici présentés?
Bah, en effet, les galeries, quand elles passent ici, parce qu'il y a aussi les entreprises qui sont passées lors du vernissage, peuvent être séduites par le travail de certains de nos étudiants et justement proposer par la suite une collaboration.
voir aussi pour l'an prochain, pourquoi pas, des performances qui seraient proposées à ces artistes ici qui émergent, donc, pour l'animation de Art Up 2017.
Bah pourquoi pas, écoutez, c'est toujours une possibilité. Mais ce qui est sûr, je pense en tout cas, c'est que Révélation avec les étudiants a séduit beaucoup de personnes. Nous, on a eu beaucoup de très bons retours, en fait, des personnes qui venaient visiter, mais aussi, de manière générale, des entreprises, des gens du comité. Et je pense que l'année prochaine, Art Up va continuer avec la révélation des jeunes.
Voilà, je propose de continuer de découvrir voilà, cet environnement hein, de ces jeunes qui vont tenter de percer dans le monde de l'art contemporain, un peu compliqué peut-être pour eux encore. Pan Deng, il est artiste, il vient de Chine, il a travaillé et on va dire creusé son sillon dans une école d'art dans la région ici, hein, à Tourcoing. On va l'écouter maintenant. Pan Deng, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Donc, vous êtes artiste ?
Oui, oui.
Et vous avez fait vos études notamment dans notre région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie ?
Oui, c'est Beaux-Arts à Tourcoing.
Donc, ce parcours à Tourcoing, il est venu compléter des études que vous aviez faites précédemment en Chine ?
Ah, en Chine, j'ai eu diplôme en peinture à Lille.
Dans quelle ville ?
À Pékin.
Pour vous, le fait de venir en France... continuer, compléter, on va dire, vos études. C'était au départ pour réaliser un rêve ou pour aussi évoluer dans votre profession ?
D'abord, j'aime bien continuer mes études. J'aime bien découvrir les nouvelles choses parce que pour le territoire de l'art, c'est énorme. J'aime bien l'art contemporain. En Chine, je n'ai jamais essayé de faire sculpture et tout le vidéo. En France, j'ai commencé à faire sculpture, installation et tout la vidéo aussi. Si un jour, je veux bien montrer ma vidéo, parce que maintenant, cette fois, il n'y a que sculpture.
Donc, Pan Deng, vous avez donc développé votre projet, celui qu'on peut voir aujourd'hui, une sculpture, à Tourcoing, à l'École supérieure d'art.
D'abord, le sujet, j'ai travaillé beaucoup de sujets, c'est par la politique. Surtout, je réfléchis le problème de Chine. Je réfléchis totalitaire. Qu'est-ce que c'est autoritaire? Je réfléchis ça. Par exemple, le perso, c'est je réfléchis le problème de Chine. Parce que maintenant, en Chine, même si l'économie est développée, tout le monde pense que la Chine est déjà développée, mais ça, c'est seulement l'économie. Le marché, ça marche. Mais maintenant, la politique est encore dure. Donc, j'ai réfléchi pourquoi. Mmh. Et puis, j'ai fait mon projet.
Mmh. Est-ce qu'il existe un marché chinois et est-ce que les gens qui achètent des œuvres en Chine sont des gens qui veulent plutôt spéculer, donc investir dans des œuvres qui vont revendre d'une certaine manière par la suite, ou est-ce que ce sont des gens qui aiment vraiment l'art, notamment l'art contemporain?
Je pense que, oui, c'est comme vous avez dit, ça existe. Il y a quelqu'un comme ça, il y a quelqu'un, il a acheté les œuvres et puis demain, il revendre la deuxième fois, c'est pour gagner d'argent. Il s'en fout, il y a le message, il y a l'art, il s'en fout. Il est seulement pour le marché, pour d'abord acheter et puis revendre pour gagner d'argent, si ça existe.
C'est vrai qu'en Chine, il y a, on va dire, plusieurs lieux très connus, par exemple à Pékin ou à Shanghai. Pékin, par exemple, si on prend Titiopa, ouais, c'est un Titiopa. Lieu qui est devenu très commercial.
c'est seulement d'après moi, oui, c'est très commercial. Parce que maintenant, la Chine, l'art est en train de développer. Je pense que peut-être c'est une époque nécessaire. Parce qu'en Chine, l'artiste, c'est pas comme en France. En France, par exemple, un artiste, il peut demander au gouvernement, ça existe de résidence d'artiste. S'il a besoin d'argent, il demande les aides au gouvernement. Mais en Chine, si un artiste il ne peut pas vendre son projet, il n'a aucun argent. Donc je peux comprendre, il y a quelqu'un pour faire quelque chose et puis pour gagner d'argent. C'est un système très différent.
Donc ici, on est dans une foire de l'art contemporain. Il y a énormément de galeries, donc de responsables de galeries. Est-ce que vous allez les voir? Est-ce que vous cherchez aussi à leur montrer vos œuvres et aussi faire que eux, ils vous soutiennent, ils vous défendent, ils vous exposent et ils vous vendent vos œuvres?
Oui, je veux bien chercher une galerie parce que c'est bientôt je vais diplôme. Je vais partir à l'école. Donc, je veux bien chercher une galerie ou commanditaire m'a aidé pour réaliser mon prochain projet. J'ai entendu beaucoup de projets, j'ai entendu faire. J'ai besoin de matière, j'ai besoin d'atelier. Oui, je veux bien chercher une galerie.
Donc, votre projet professionnel, on va dire, hein, d'artiste, mais néanmoins professionnel, il est de voyager et de trouver des points d'ancrage, des ateliers plutôt en Occident ou plutôt dans le monde asiatique?
J'aime bien la France. J'aime bien la France. Si je peux chercher un commanditaire ou galerie en France, ça c'est bien pour moi. J'aime beaucoup la France. L'année dernière, en septembre, pour découvrir ce pays, pour découvrir la France, j'ai fait du vélo depuis la Romandie, traversé toute la France. Jusqu'à Espagne, jusqu'à la frontière Espagne, jusqu'à ça s'appelle Andai. Ouais, j'ai fait du vélo 1100 km par 11 jours parce que j'aime bien, je vraiment aime bien la France.
Donc, quand vous faites ces grands voyages à vélo, vous voyez des paysages, vous avez le temps?
Oui. J'aime bien le paysage français, c'est vraiment magnifique.
Et est-ce que vous gardez dans l'esprit des images de ces paysages que vous voudriez restituer, utiliser?
Oui, bien sûr. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Le paysage français est magnifique. J'ai rencontré beaucoup de Français. Ils sont inconnus, je ne connais pas, mais ils m'ont aidé beaucoup. Ah, il y a beaucoup de souvenirs. Par exemple, j'ai oublié ce qu'elle voulait. Parce que j'étais perdu dans une montagne et puis mon vélo un peu cassé. Je ne sais pas comment faire. Et puis il y a un couple français, il m'a rencontré. Tous les deux sont vraiment très très gentils. Il m'a aidé à conduire, chercher un magasin de vélo pour réparer mon vélo. Ça c'est génial, ça c'est le meilleur. La France est belle, on dit que c'est un pays très belle. C'est grâce qu'il y a les Français, les gens, parce que les gens sont gentils.
Mais après,
ça, c'est plus belle que le paysage.
Mais après, pour rester en France, c'est pas toujours évident d'avoir une carte de séjour qui permet de rester longtemps.
Ah oui, ça c'est pourquoi il faut chercher une galerie ou commanditaire. Sinon, j'ai pas de droit à rester en France. C'est le problème, ouais, mais je peux comprendre, c'est la politique fonctionnaire, comment ça? Il faut chercher. Non,
tout n'est pas encore parfait en France non plus alors.
Ah ouais, parce qu'un pays parfait, ça n'existe pas.
Merci beaucoup, bonne continuation, bonne chance.
Merci à vous monsieur.
Voilà, c'était Pan Deng, donc un artiste tout à fait intéressant aussi pour sa partie vidéo et je voudrais bien qu'on la reconnaisse un jour. On essaye d'y travailler. Voilà Didier Besse, voilà, cette nouvelle édition sera l'occasion de rencontrer de nouveaux jeunes talents et puis aussi des talents plus confirmés. Il y a des gens qui sont artistes et qui sont exposés par des galeries internationales et qui ont donc des œuvres du monde entier, de gens même parfois décédés, d'artistes décédés. Hein.
Oui, bien sûr. Alors pour rebondir sur les jeunes et sur cette présence des élèves des écoles d'art, en fait, on leur a demandé cette année de travailler sur la thématique de la foire qui est sur la thématique de l'architecture. Alors c'est vrai que cette thématique dans la foire, on la trouve de différentes manières, à la fois aussi dans la communication. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les invitations, les affiches, c'est un événement, c'est un bel événement en perspective. Ce sera une soirée monumentale. On a fait des clins d'œil à des mots de l'architecture, et c'est à mon avis très très pertinent. Il y aura aussi des conférences où on va parler justement de la présence, de la rencontre entre la photographie et l'architecture, parce que cette idée, elle m'est venue de là, en fait, depuis plusieurs années, en parcourant les foires et en allant chez les galeries, j'ai constaté que vraiment les photographes s'intéressaient à l'architecture. Et puis, bien sûr, les galeries présentes, alors il y en a à peu près un quart qui se sont collés un petit peu au sujet, et donc qui présenteront des œuvres d'artistes qui se sont intéressés ou qui s'intéressent déjà à l'architecture. Alors c'est pas une obligation, c'est simplement un désir de leur part et une communication un peu plus importante pour eux dans la foire. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un grand événement cette année parce qu'on est aux 10 ans d'Artup. Mmh. Hein, voilà, donc on fête un bel anniversaire et on a toujours, bien sûr, dans les problématiques, dans nos choix, c'est de mettre en avant, bien sûr, les jeunes artistes à travers les galeries qui sont là, mais aussi les jeunes galeries, donner la possibilité à des galeries de participer à cette foire pour la première fois. Du coup, on applique des tarifs particuliers pour ces gens-là. Dans la foire, vous découvrirez tous les mouvements de l'art contemporain. Ils sont multiples, tous les mouvements de l'art d'aujourd'hui, sous toutes les formes d'art, toutes les techniques.
Voilà, bien, on rappelle Artup cette année, ça démarre le 2 mars, c'est un jeudi pour le grand public, avec le soir, la nuit exceptionnelle, comme chaque année, d'animation par les galeries, hein, et donc ce sont des événements qui sont synchronisés pour que tout le monde puisse assister à peu près à tout, hein, dans l'espace qui est immense.
Oui, et puis il y aura de la musique aussi, il y aura une bonne ambiance. On tient beaucoup à cette convivialité. Et cette année, on a vraiment mis l'accent sur... on organise aussi un voyage de presse avec des journalistes qui vont venir un petit peu de partout pour visiter la foire. On leur organise une journée, ils vont aller visiter la Villa Cavrois, le LAM. Enfin, vous voyez, on est aussi en contact direct avec les endroits précieux de l'art dans cette région. Et puis, il y aura une soirée conviviale pour les exposants, c'est important. Voilà.
Voilà, eh bien merci Monsieur Bess. On va se quitter avec une deuxième interview, hein, celle d'une artiste qui était là aussi dans le cadre des jeunes mis en valeur, et l'occasion de la retrouver peut-être encore cette année, je ne sais pas où, hein, mais voilà, je vous propose de découvrir Mathilde Clabeau qui travaille, elle va vous l'expliquer, à partir de récupération de dessus de chaises. Chacun a son style et son univers. Merci beaucoup Monsieur Bess et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie et voilà, on vous attend tous le plus nombreux possible.
Bonjour, je m'appelle Mathilde Clabeau, je suis en 5e année à l'école supérieure d'art de Tourcoing et je suis présente sur le stand Révélation par Artup pour cette édition 2016.
Donc cette école à 5 années, vous terminez ?
Tout à fait. En juin, on passera ce qu'on appelle le DNSEP, le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, qui permet de clore ces 5 années d'études à l'École supérieure d'art.
Et je suppose que pour les valider, il faut présenter des œuvres, et pour vous, elles sont ici aujourd'hui.
Tout à fait. Là, c'est deux œuvres que je pourrais tout à fait présenter en juin, lors de mon diplôme. Et on a également un mémoire à réaliser pour obtenir ce diplôme.
Alors, est-ce qu'on peut parler de ces deux œuvres et peut-être d'une manière globale de votre projet général ?
Tout à fait. Alors, donc là, sur le stand de Révélation, on découvre deux de mes œuvres. La première qui est Écorché numéro 1. Alors, Écorché numéro 1, c'est une série de 13 écorchés, comme je les appelle. Alors, l'idée de cette série, c'est d'avoir récupéré sur des différents sièges des tissus d'ameublement usés, abîmés par le temps, qui ont vécu et qu'on retire parce que soit on veut changer, entre guillemets, sa décoration et on veut lui redonner vie, soit parce que certains fauteuils ont même été abandonnés. Donc voilà, quelque chose de l'abandon, de la destruction. parfois à la destruction. Et moi, je viens récupérer ces tissus qui n'ont pas forcément d'intérêt au premier coup d'œil. Moi, je viens de les retirer des sièges et je les replace au mur. Selon les fauteuils, là, on est en face du premier, ça ressemble parfois, on me dit, à un totem. Parfois, j'ai pu entendre la vache, le taureau, il y a quelque chose d'animal, un peu comme si c'était un trophée de chasse qui est en face de nous, comme ça, un reste de peau qui n'est pas du cuir, mais du simili-cuir. Donc, il y a un peu comme ça ce jeu entre l'animal, mais qui n'en est pas. Au final, c'est du mobilier. Donc, voilà, tout ce jeu entre différents éléments.
Donc effectivement, cette œuvre, elle est accrochée au mur, hein. Ce n'est pas une œuvre qu'on peut transporter comme ça.
Tout à fait, elle n'est ni dans un cadre, ni clouée sur une grande paroi. C'est différents éléments qui sont cloués par moi-même d'une manière que j'ai décidée dès le début. Et à chaque fois, je la réinstalle dans le même sens. Sauf que comme c'est une matière qui bouge... On va pas avoir exactement le même résultat à chaque fois, donc c'est ça aussi que je trouve intéressant. Voilà, il y a la symétrie, mais je ne suis pas une machine, donc à chaque fois, ça sera pas forcément le même espacement entre les pièces de tissu, de simili-cuir dans ce cas-là. Mais voilà, il y a aussi cette idée de quelque chose qui n'est pas fixe. En fait, le point commun de tout mon travail artistique se situe autour des sièges. Ça peut être un peu rigolo pour certains ou un peu énigmatique, mais voilà, ça c'est mon projet en termes d'étudiant en art, voilà, et d'artiste même. J'en suis encore qu'au début de ma carrière, on va dire, et j'espère que pendant longtemps le siège m'inspirera de nombreuses créations et de nombreuses installations et projets.
Bonne continuation.
Merci beaucoup.